Merci beaucoup pour cette présentation et merci aux organisatrices et à toute l'équipe du laboratoire pour cette journée au thème si riche. Je commencerai en expliquant que le concept de marginalité m'a semblé ouvrir une perspective différente sur un objet d'étude que je scrute depuis le début de ma thèse, tout en permettant de rattacher cet objet à une catégorie thématique souvent investie par la littérature de témoignage et la littérature d'enquête. Plus précisément, la dimension spatiale du concept, son fonctionnement au sein d'un couple notionnel centre-marge ou centre-périphérie, m'a semblé pertinente pour expliquer la nature des représentations dont sont l'objet les étudiants de l'école Isidro Burgos d'Ayotzinapa, école de l'État de Guerrero au sud du Mexique, dont le nom a été placé sous les projecteurs à partir du 26 septembre 2014, lorsque 43 étudiants de cette école normale rurale, destinée à la formation des futurs étudiants des régions les plus marginalisées du pays, ont été victimes de disparitions forcées, tandis que 6 autres personnes étaient tuées par les balles de la police. Ce crime, l'un des cas de violation des droits humains les plus graves qu'ait connu le Mexique ces dernières années, a également initié un combat pour la justice, mené avant tout par les proches des victimes et les étudiants. Or, si une part importante de la population mexicaine s'est solidarisée de cette lutte qui se poursuit encore aujourd'hui, 7 ans après les faits, et alors que les 43 disparus n'ont toujours pas été retrouvés, force est de constater que cela s'est fait contre un discours médiatique largement défavorable aux étudiants et à l'institution que représentent les écoles normales rurales. À la lecture de nombreux articles de la presse locale comme nationale, on note un décalage entre la violence unilatérale subie par ces étudiants non armés, faut-il le rappeler, et le traitement souvent hostile qui est fait de cette mobilisation qui s'organise et se maintient à partir de l'école d'Ayotzinapa. Il existe un monde entre les articles nombreux qui constatent à chaque manifestation des étudiants et proches des disparus les dégâts matériels qui ont pu être causés et assimilent à mots couverts ou plus directement les étudiants à des délinquants et ces dégradations à de la violence, sans aucune forme de contextualisation ni de parole accordée aux acteurs. Il existe un monde donc entre ces représentations et les initiatives portées par des auteurs et autrices, journalistes, poètes, poétesses, écrivains, écrivaines et documentaristes qui ont tenté d'offrir des représentations différentes. Et je rejoins ce que disait Camila en parlant de réflexion critique, donc des représentations différentes de l'affaire Ayotzinapa et de la mobilisation qui en a résulté. J'ai ainsi souhaité partir de la notion de marginalité pour interroger la démarche de ces auteurs et autrices, une démarche d'immersion commune à la majorité d'entre eux et elles, soit le déplacement depuis un centre, qui est souvent la ville de Mexico, vers une marge, l'État de Guerrero donc, et l'école d'Ayotzinapa. Je défendrai dans la suite de cet exposé l'idée que cette immersion correspond à une volonté de renouveler les représentations communes médiatiques. Néanmoins, une démarche et la volonté dont elle découle ne sauraient assurer le succès d'une telle entreprise. Il s'agirait donc d'observer ce que produit cette immersion en termes d'écriture, pour, en fin de compte, engager, seulement engager, une réflexion sur la capacité de l'écriture. Je laisserai de côté pour l'instant les représentations visuelles, à la capacité de l'écriture donc à favoriser le rapprochement d'une marge et d'un centre. Pour ce faire, je bâtirai mon propos en me référant à 2 textes, l'un relativement long, Ayotzinapa, Horas Eternas, les chroniques d'un an de mobilisation signées par la journaliste Paola Monaco Felipe et publiées fin 2015, et l'autre relativement court au regard du premier, un article de quelques 13 000 signes écrit 2 semaines après les faits et publié dans la revue Proceso par Marcela Turati, journaliste qui a remporté une douzaine de prix pour ses reportages et ouvrages journalistiques. Un article donc qu'elle a intitulé El dormitorio más triste y solo de Ayotzinapa. Je partirai tout d'abord de la sociologie pour définir le positionnement de l'école d'Ayotzinapa au sein du couple centre-marge, avant de m'attarder sur 3 vertus de l'écriture en immersion: l'attention portée au temps faible, l'accès à un dire de l'intime et l'écriture des sensations. Pour commencer, je suis donc partie de la définition de la marginalité proposée par le sociologue Didier Fassin, qui correspond à une forme d'exclusion, je cite, un phénomène par lequel une fraction de la population ne trouve pas sa place dans le système capitaliste. Didier Fassin a par ailleurs montré les spécificités du terme lorsqu'il s'applique à l'Amérique latine et retracé sa construction, de façon à mettre en avant les dimensions économiques et sociales, mais aussi comportementales, individuelles et collectives, de la marginalité. Si l'on applique ces critères aux étudiants d'Ayotzinapa, ceux-ci semblent effectivement se trouver dans une situation de marginalité. Issus des couches les plus fragiles de la population mexicaine, originaires des zones rurales du Guerrero, souvent difficiles d'accès et où l'espagnol n'est pas systématiquement la langue maternelle. L'école Isidro Burgos, quant à elle, représente pour ces jeunes gens une opportunité unique d'accéder à un enseignement leur assurant un avenir professionnel. Une position que Marcela Turati résume de façon pour le moins efficace par cette description des conditions d'accès à l'école. Je cite: Esta escuela donde el requisito para entrar es no tener dinero, pero tener ganas de ir a contracorriente del destino de los pobres hasta alcanzar ser alguien. Le rôle de vecteur d'inclusion, d'intégration sociale de l'école ne semble donc pas faire de doute. Ce serait pourtant oublier la destinée des écoles normales rurales au Mexique qui naissent, je ferai un court rappel, qui naissent au sortir de la Révolution mexicaine et portent alors l'ambition politique d'éduquer les secteurs les plus fragiles de la population. Cependant, à partir des années 1940, les politiques se détournent de ce projet. Des 36 écoles initiales, seules 16 d'entre elles sont encore en fonctionnement. Et sur ces 16 écoles qui survivent, fonctionnent avec des moyens extrêmement réduits. Ces conditions donnent d'ailleurs lieu, dans les deux textes qui nous intéressent aujourd'hui, à des descriptions soulignant la vétusté des installations et l'absence totale de confort des étudiants qui y étudient et y résident. Dans son article, Marcela Turati décrit les cartons posés à même le sol et faisant office de lit pour les étudiants de première année. Mais outre cette absence de soutien politique qui met en péril la fonction sociale de ces écoles, les écoles normales rurales et particulièrement celles d'Ayotzinapa cultivent une autre forme de marginalité qui se cristallise notamment dans une identité politique qui illustre les fresques murales qui décorent les façades des bâtiments de l'école ici au Burgos, tout en revendiquant un héritage idéologique à la fois très fort et extrêmement minoritaire au Mexique, celui du marxisme et du socialisme. Figurent parmi ces fresques les visages et sentences de Marx, Che Guevara, Lénine, mais aussi Lucio Cabañas, ancien élève de l'école d'Ayotzinapa et fondateur du Partido de los Pobres en 1967, et qui passe à la clandestinité en 1974 pour mener une guérilla armée. On le voit, l'école occupe donc une place intermédiaire dans cette géographie de la marge, économique, sociale, politique, culturelle et du centre. Au-delà de ce constat, il m'intéresse à présent de montrer comment l'écriture en immersion a pour première vertu de porter une attention particulière au temps faible de la mobilisation, à sa part d'invisible. Appliqué à l'ouvrage de Paola Monaco Felipe, ce terme d'invisible prend différentes significations. Ce terme de temps faible prend différentes significations. Il peut s'entendre tout d'abord comme ces temps de la mobilisation non couverts par les médias, faute d'images suffisamment attractives. C'est le cas d'une scène de la troisième partie de son ouvrage, intitulée « Seguir », et que la journaliste consacre au récit de cette mobilisation des parents, malgré les semaines et les mois qui passent sans que ne réapparaissent les disparus. Un chapitre évoque ainsi la période des fêtes de fin d'année 2014. Le chapitre commence avec l'image d'une femme assise, penchée sur son ouvrage de broderie, et ce constat qu'elle fait et qui relève de l'antithèse. ¿Cómo es esta época? Todos andan en fiestas y nosotros con nuestra tristeza. On retrouve dans ce passage la conscience d'être à la marge, l'impossibilité de vivre au même rythme festif de celles et ceux qui n'ont pas subi la perte d'un proche, et les motifs récurrents dans l'ouvrage du vide, symbolisé par l'espace du terrain de basket de l'école où les matchs ont cessé et que ne remplissent pas les brodeuses. Le silence également, laissé par celles et ceux qui sont rentrés passer les fêtes en famille. Otra vez el silencio, commente la narratrice. Des femmes de toute génération, hermanas, esposas, abuelas y sobrinas de los 43, sont assises et brodent des mouchoirs au nom des disparus. La scène, statique, ne fait pas événement. Et de fait, cette initiative, dont la journaliste nous précise qu'elle fait partie du projet mémoriel Bordados por la Paz, un projet antérieur à Ayotzinapa, lancé en 2014 dans un Mexique meurtri par les homicides, les féminicides et les disparitions forcées, a été peu relayée par les médias mexicains. Cette scène a pour nous son importance en ce qu'elle transforme la représentation habituelle donnée de la mobilisation. D'une part, en la féminisant, algunos hombres se acercan tímidos, los mayores solo miran, Pero entre los más jóvenes, algunos deciden sumarse. Et en étendant le sens du terme de mobilisation au-delà de sa part visible, donc, celle des manifestations qui se tiennent dans l'espace public. Ces temps faibles sont aussi ceux des échecs de la mobilisation. Au même chapitre, les parents des disparus, à défaut de pouvoir célébrer comme tout le monde, décident d'aller porter leurs revendications et, décident d'aller porter leurs revendications hors de l'école jusqu'à la résidence présidentielle à Mexico. Ils et elles sont rejoints par quelques 200 personnes, un chiffre peu élevé au regard des manifestations massives qui avaient eu lieu en novembre. Et ils seront finalement empêchés de manifester par deux fois. Une scène qui souligne l'impossibilité d'accéder au centre politique et le renvoi symbolique à la marge, rappelant encore que la sortie de l'espace marginalisé n'est pas une entreprise facile. La tension se déplace donc des temps forts, bien documentés dans le cas d'Ayotzinapa, à faire sous le feu des projecteurs à partir donc du 26 septembre et qui, 7 ans plus tard, continuent d'apparaître quotidiennement dans les médias, vers des temps faibles de la lutte, généralement laissés dans l'ombre, modifiant de ce fait en profondeur notre représentation de la mobilisation, tant dans sa composition que dans sa temporalité, marquée non seulement par des temps d'action, non seulement par des temps d'action, mais aussi par l'échec et l'attente qui amène les lecteurs et lectrices au plus proche des acteurs et actrices et engage la possibilité d'un dire de l'intime. C'est à ce dire de l'intime que je consacrerai le point suivant. L'article de Marcela Turati prend pour cadre un dortoir de l'école d'Ayotzinapa, dortoir qu'elle visite en compagnie de son seul occupant, Bernardo, normalista de première année. De ce dortoir, initialement occupé par 8 étudiants, 6 sont à ce jour portés disparus. Le 7e a abandonné l'école suite aux événements. Il apparaît très vite que le dortoir devient l'espace qui permet ce dire de l'intime pour l'étudiant comme pour l'autrice. D'une part, on peut noter que l'expression de la peine de Bernardo se limite dans un premier temps à l'affirmation répétée de son positionnement. « Yo soy el único aquí », affirme-t-il à plusieurs reprises. « Yo soy el único que se quedó aquí. Aquí me quiero quedar. Aquí quiero estar. » Son obstination à rester dans ce dortoir traduit un besoin de se maintenir en marge des autres, de ses camarades d'école. Ainsi commence l'article. « Todos los días a Bernardo le insisten para que se mude de dormitorio, pero él no escucha. » Tandis que sa mère lui demande d'abandonner l'école en vain, l'étudiant reste fidèle au lieu et aux souvenirs de ses camarades. Au fil de l'article et de la visite guidée de son dortoir que le normalista réalise pour la journaliste, son attitude change. D'abord tenso, pero sonriente, quand il évoque le fait qu'il a mis de l'ordre dans les affaires de ses camarades, dont il est sans nouvelles alors depuis plus de 2 semaines. Le masque souriant se fissure finalement face à une douleur trop grande, alors qu'affleure le souvenir de paroles prononcées par l'un de ses camarades. « La tristeza le corta el habla y llora silencioso », écrit la journaliste. Et puis d'ajouter « El dolor es gigante para este joven, apenas pasada la mayoría de edad, que pretende ser un adulto, que carga sobre su cuerpo flaco el pesado recuerdo de 7 amigos ». Il est d'ailleurs significatif que l'on trouve une remarque similaire dans l'ouvrage de Paola Monaco Felipe. À propos d'étudiants de l'école portant une banderole « Vivos se los llevaron, vivos los queremos », mot d'ordre de la mobilisation pour Ayotzinapa depuis le premier jour et mot d'ordre des grand-mères argentines de la place de Mai avant cela, Paola Monaco Felipe commentait « Me estremece verlos. Ellos se ven fuertes, pero demasiado jóvenes para cargar con esta manta. » Face à cette douleur trop grande qui pousse au silence, la description minutieuse du dortoir prend le relais. Tout dans cette description suggère l'abandon. Les murs du dortoir sonnent « paredes pelonas, sin adornos ». La peinture du plafond s'effrite, une mention toute prosaïque qui acquiert valeur de métaphore du passage du temps. Le sol est quant à lui saturé d'objets appartenant aux disparus, des objets qui confèrent une immobilité au lieu, rappelant la disparition et suggérant la mort. Tenis rotos, huaraches, un costal blanco, una chamarra vieja, un maletín deportivo, unos vasos de plástico, una bolsa de detergente, un folder… etc. Autant d'objets dont l'immobilité n'est perturbée que par l'obstination de Bernardo à ordonner et réordonner le dortoir en attendant le retour de ses camarades. Enfin, Marcela Turati décrit Bernardo assis à côté d'un derrumbadero de zapatos, expression qui à nouveau connote l'abandon. Ainsi, il apparaît que ce dire de l'intime ne passe pas uniquement par le témoignage de l'étudiant, mais plutôt par la description du lieu, ce dortoir abandonné et personnifié dès le titre de l'article. qui prend le relais de cette expression d'une douleur indicible, d'un sentiment d'abandon donc provoqué par la disparition forcée de ses camarades et jamais réellement formulée par l'étudiant. Enfin, l'immersion peut également être propice à une écriture des sensations qui demande une attention toute particulière pour être mise au jour. Je l'illustrerai par le traitement de la temporalité, une temporalité propre à Ayotzinapa. La sensation du temps qui passe ou se fige, telle qu'elle transparaît dans le livre de Paola Monaco Felipe et dans l'article de Marcela Tulati. À l'égrenage des dates qui ponctuent la chronique que construit Paola Monaco Felipe d'une année de lutte à l'école d'Ayotzinapa, se lient ces heures éternelles du titre qui s'étirent jusqu'à l'insoutenable dans l'attente du retour des disparus. Ce motif des heures éternelles est repris à trois reprises dans le livre. Une première mention apparaît dans la première partie du livre, celle consacrée à la reconstruction de la nuit du crime, au matin du 27 septembre, alors qu'un groupe d'étudiants est emmené au service de la médecine légale pour identifier les corps de trois de leurs camarades. Les étudiants restés à l'école sont en attente de nouvelles. Cette occurrence marque alors l'entrée des étudiants dans ce que l'autrice nomme « el abismo », l'abîme de la disparition forcée. En Ayotzinapa, las horas se hacen eternas. 8 jours plus tard, la seconde occurrence traduit cette fois l'attente des parents qui ont investi l'école pour se soutenir et réclamer d'une seule voix le retour de leur fils. Algunos dormitan sentados mientras otros mantienen los ojos abiertos y el rostro tenso. Estas, las primeras horas, se hacen eternas. Quant à la troisième occurrence, elle survient dans un chapitre que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, celui consacré aux brodeuses, tratan de pasar las horas que se hacen aún más largas entre diciembre y enero. Ce temps qui s'étire dans l'attente au point de se figer, c'est aussi celui du dormitorio más triste y solo de Ayotzinapa, article à la structure circulaire qui s'amorce et se conclut par le même acte quotidiennement répété de Bernardo, l'étudiant enfermé dans l'espace du dortoir dont il s'est fait le gardien. On peut lire au début de l'article « Cuando en esta escuela internado cae la noche, él extiende su cobija roja sobre unos cartones y se acuesta en soledad, rodeado de ausentes, añorante de este cuarto lleno de amigos. » Et à la fin de l'article, « Esa rutina de esperarlos en la puerta, de no entrar hasta que lleguen todos, esa promesa del si salimos todos, volvemos todos, es lo que hace que Bernardo cada tanto reacomode las pertenencias de sus amigos, barra el piso y cultive la esperanza del reencuentro hasta llegar la noche cuando regrese al cuarto más solo y triste de Ayotzinapa y tiende su cobija roja y duerme siempre en vela para darles la bienvenida al momento en que reaparezcan. La répétition des gestes jusqu'à l'absurde quand il s'agit de mettre de l'ordre encore et encore dans des affaires demeurées immobiles depuis la disparition de leur propriétaire et les oxymores rodeado de ausentes et duerme en vela traduisent l'impasse dans laquelle se trouve le jeune homme, celle d'un présent répété à l'identique jour après jour et où le rêve constitue une alternative à l'insoutenable réalité. Alguna noche ha soñado que están juntos en el convivio que tenían planeado para este fin de semana. Un présent qui plus est, peuplé par le passé et les souvenirs. Ces souvenirs ne sont d'ailleurs pas loin d'acquérir une fonction performative lorsque Bernardo déclare vouloir recordarlos para traerlos de vuelta. Possibilité que lui offre le texte, quelques lignes plus loin. Vuelve la sonrisa cuando aparece en el cuarto a Eduardo, et plus loin, a Cristian Alfonso y a Israel. Entre les murs du dortoir, les disparus reviennent et s'animent pour redonner vie au lieu. L'usage transitif du verbe aparecer constitue un contrepoint au même usage transitif du verbe desaparecer, devenu courant dans ce Mexique, país de las fosas clandestinas. Camila a rappelé le nombre de personnes portées disparues au Mexique, comme un effort de l'autrice pour tenter de modifier le réel par les mots. Je conclurai en disant que j'ai voulu montrer comment l'immersion engage un positionnement particulier de l'auteur, l'autrice, vis-à-vis de l'objet de la représentation. Qu'il s'agisse de journalisme narratif, journalisme littéraire, littérature d'enquête, des dénominations particulièrement souples et poreuses, il est significatif que ce questionnement de la marge soit l'œuvre d'écriture elle-même en marge de l'institution littéraire. Écriture de l'urgence, pour reprendre l'expression de Marie Estripo-Bourjac, et de ce fait même suspecte de non-littérarité, elles entretiennent pourtant des liens serrés avec la littérature par l'attention qu'elles portent au langage et la volonté de se détourner de l'événement, de la part immédiatement visible, offerte du réel, pour en révéler une part d'invisible, d'indicible et pourtant sensible, et au bout de cette resignification de l'événement, en dégager peut-être une vérité. Je vous remercie.
Je rebondis sur un élément que tu as mis volontairement de côté et je reste dans le champ visuel vu que c'est ce qui m'intéresse avant tout. Tu parlais du coup de la capacité de l'écriture à rendre compte de ces événements d'Ayotzinapa et tu as parlé également d'une éventuelle capacité visuelle. Et je voulais savoir s'il y avait eu justement des manifestations artistiques éventuellement qui avaient traité ce sujet-là ou cet événement-là.
Des manifestations artistiques liées à la mobilisation pour Ayotzinapa?
Oui, c'est ça.
Oui, il y en a eu un certain nombre. Une des plus. Qui a eu le plus d'écho, j'allais dire médiatique, mais ce serait discutable. Mais en tout cas, qui a eu le plus d'écho, ce serait Ilustradores con Ayotzinapa, qui a été un mouvement qui s'est lancé, qui a été diffusé essentiellement via les réseaux sociaux. Et qui proposait donc à des peintres, dessinateurs et tout type d'artistes visuels donc de faire le portrait d'un des 43 étudiants. Et ces portraits, donc, d'une part, ont été amplement diffusés sur Internet. Il me semble qu'il y a eu plusieurs expositions aussi physiques dans différents lieux du pays. Certains de ces portraits ont également été repris vraiment au sein de la mobilisation par les parents des disparus. Si vous avez en tête des images des manifestations, en général, au début toujours en début du cortège, c'est les parents des disparus qui ouvrent le cortège et donc ils portent de grands portraits de leur fils. Et alors, il y a à la fois les photos d'identité agrandies des disparus et aussi souvent des représentations alors, qui sont des portraits qui ont été effectués par une artiste écossaise dont le nom m'échappe là tout de suite et qui sont des portraits. Alors, elle partait justement des photos d'identité qu'elle retravaillait, elle les recolorisait et autour du visage du disparu apparaissaient différents objets ou différentes figures symboliques de l'identité de ces disparus. Enfin, ça, c'est parmi les exemples les plus significatifs, je pense.
La violence n'est pas seulement destructive, mais comme tu as évoqué, elle est aussi constructive et il y a des formes de solidarité qui se forment. Donc, tu as évoqué les bordados pour la paz et autres. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ces formes de solidarité dépendent de chaque étudiant, un peu de là où ils viennent. Donc, par exemple, dans cet séminaire que j'avais écouté, ils évoquaient le cas de deux étudiants différents. Un qui venait d'une communauté qui s'appelait 18 de Mayo, si je me souviens bien. Et l'autre, c'était... d'un autre endroit. Et alors, pour un étudiant, il y a eu énormément de démonstrations de solidarité dans son village, et tous les professeurs, tous les voisins, tous les amis ont participé aux marches pour Ayotzinapa. Et dans l'autre, c'était une communauté qui avait un passé politique un peu compliqué, où il y avait déjà eu des disparitions, mais liées plutôt liées au narcotrafic. Et justement, l'étudiant normalien de cette communauté-là a disparu, la famille s'est retrouvée très isolée et ils étaient regardés avec beaucoup de suspicion. Ils ne voulaient pas trop s'approcher, ils ont juste reçu des marques de solidarité de leur famille, mais il n'y a pas eu de mouvement collectif qui adhérait à cette disparition, de par le passé de cette communauté qui avait été déjà militarisée plusieurs fois. Ou peut-être cette famille avait eu peut-être des implications dans d'autres disparitions dans les années 80. Et donc, voilà, c'était juste pour dire que malgré le fait que c'était vraiment une tragédie nationale, à niveau local, ça a été vécu de façon très différente par les familles des disparus. Donc je ne sais pas si c'est un sujet que tu évoques dans ta thèse.
Alors, dans la thèse, peut-être pas directement, encore que si, comme ce thème de la solidarité, j'ai un corpus de 6 ouvrages, tous de manière très, très différente de l'affaire et de ses suites. Mais oui, si, c'est vrai que ce thème de la solidarité, il apparaît quand même dans les ouvrages, et je pense en particulier à l'un de ces ouvrages qui s'appelle Procesos de la Noche. Qui a été écrit par Diana del Angel, qui est toute jeune et qui jusque-là n'avait publié que de la poésie. Et donc, il publie cet ouvrage-là, donc ouvrage alors, de chronique, ouvrage documentaire, et où il est justement question de la façon dont les gens se sont solidarisés ou pas, et notamment dans la ville de Iguala, où a eu lieu le crime, puisque alors, on parle de l'affaire Ayotzinapa. Mais Ayotzinapa, ce n'est pas le lieu, donc c'est le lieu d'où viennent les étudiants, où étudient les étudiants, mais le lieu où s'est produit le crime, c'est la ville d'Iguala, qui est à 1 heure de l'école. Et dans cette ville, à plusieurs reprises, donc, Diana del Angel suit les manifestations dans Iguala. Et très peu d'habitants d'Iguala participent. Et l'explication qui est donnée, c'est que la ville étant, pour ainsi dire, aux mains des organisations criminelles, c'est très compliqué pour les gens de se solidariser avec la cause des disparus d'Ayotzinapa. Donc effectivement, oui, il y a les disparus des années 70, de la guerra sucia qui a eu lieu dans l'état de Guerrero, et il y a aussi la situation de violence actuelle qui fait qu'il y a une solidarité qui est assez contrastée selon les lieux. Et juste pour ajouter par rapport à ta question, Célia, il y a aussi au mois qu'il y a eu en 2019, il me semble, une autre exposition de l'artiste et activiste chinois Ai Weiwei, qui avait réalisé essentiellement une œuvre pour les 43 disparus et qui était assez intéressante aussi dans le principe, donc qui partait également des portraits des 43, mais les portraits étaient réalisés avec des Lego. Donc, un portrait, des portraits sans doute un peu moins de 2 mètres de haut, et donc constitués d'un nombre incalculable de Lego. L'idée étant de symboliser au contraire, de rendre plus concret le sens que peut avoir la mémoire collective. Concrètement, un Lego tombe, le portrait n'est pas modifié, on reconnaît encore le visage du disparu. Donc cette idée que chacun individuellement est responsable de cette mémoire collective.